parole ce soir. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur un texte, permettez-moi cette expression un peu familière, archi connue. La parabole du semeur. Et je vais vous raconter un petit peu pourquoi je vais prêcher sur ça. J'étais en train de lire ce texte dans ma lecture personnelle, dans mon culte personnel. Et peut-être, je ne sais pas, inconsciemment, je lisais ce texte, on le connaît tellement. Oui. Je le lisais. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, alors je n'ai pas entendu de voix, je ne suis pas encore comme Jeanne d'Arc, rassurez-vous. Mais il y a vraiment cette question forte qui est venue sur mon cœur, c'était clair, c'était net. Est-ce que tu crois que cette parabole, ce n'est que pour les incroyants ? Donc je me suis arrêté et j'ai dit « ouais, c'est vrai ». Et donc je l'ai relu, mais avec un autre regard. Et effectivement, j'ai été interpellé et je me suis rendu compte que ce n'était pas que pour les incroyants. Souvent, les prédicateurs, je l'ai fait moi aussi, certainement Bernard aussi, on s'est servi de cette parabole dans les réunions dites d'évangélisation. Parce que c'est vrai, il y a des choses à dire. Mais en la relisant, en y réfléchissant dessus, il y a quand même tellement de choses qui sont aussi pour nous les chrétiens ce matin. Alors je voudrais qu'on la lise ce soir, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 2. Marc, chapitre 4, verset 2. Il nous a dit ceci, il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et leur dit dans son enseignement. Écoutez. Bon, déjà, ça commence bien parce qu'on pourrait s'arrêter rien que sur ça. On entend beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'on les écoute, hein? Ça en est une autre, hein? Mais Jésus dit bien, écoutez, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapportait 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis un petit peu plus loin, on va sauter quelques versets, verset 13, Jésus va donner l'explication. On va la lire. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la parabole, Jésus la donne à ses disciples. Il ne la donne pas à la foule. Hein. Vous voyez, donc, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Voilà. Première chose qui m'a interpellé dans cette parabole, c'est que elle a un point commun avec une autre parabole, celle des dix vierges. Vous savez que cette parabole des dix vierges, Jésus nous dit bien, cinq étaient folles et cinq étaient sages. Je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse, parce que ça me semble important. Quand Jésus dit que cinq étaient folles et cinq étaient sages, il ne faudrait pas en tirer la conclusion, je l'ai entendu parfois, mais il ne faudrait pas tirer la conclusion que ça signifie que la moitié de l'Église n'est pas prête. Parce que ce n'est pas ça du tout. Dans le contexte, si vous regardez bien, ces dix vierges, bien sûr que ce qu'il faut comprendre de cette parabole, c'est qu'il faut être prêt. On est tous d'accord. Mais cette parabole des dix vierges... ne concerne pas l'Église. L'Église, c'est l'épouse. Or, ces dix jeunes filles, ce sont les demoiselles d'honneur. Donc, il ne s'agit pas de l'Église, là. Vous voyez, dans le contexte, c'est le contexte juif. Matthieu s'adresse aux Juifs. D'ailleurs, cette parabole, vous ne la trouvez que dans Matthieu. Vous voyez. Donc, ça serait faire un usage abusif que de dire, à partir de ce texte-là, que la moitié de l'Église ne sera pas prête. Bien sûr qu'il y a des chrétiens qui ne seront pas prêts. On est tous d'accord avec ça. Mais d'affirmer que la moitié de l'Église ne sera pas prête, ça, c'est donner une interprétation qui, me semble-t-il, est un petit peu abusive. Mais ce que je voudrais dire, et j'y reviens, C'est que quand vous prenez ces dix jeunes filles, 5 étaient vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages, néanmoins elles avaient des points communs. Toutes se sont assoupies, toutes avaient la lampe, toutes attendaient l'époux, toutes se réveillèrent. Voyez, donc elles avaient des points communs, voyez. Et dans la parabole du semeur, c'est pareil. Ces quatre terrains, ils ont des points communs, voyez. Ils ont bénéficié du même semeur. C'est pas un semeur différent pour chacun. Ils ont bénéficié de la même semence. C'est pas une semence différente pour chacun. C'est exactement la même pour les quatre. Donc vous voyez, le problème provenait des terrains. Il ne provenait ni du semeur, ni de la semence. Comme quoi, premier enseignement pour nous, le problème, il vient toujours de nous. Il ne vient pas du Seigneur. Voyez. Et puis, notez bien, un autre point commun que je retrouve dans ces quatre terrains, quand Jésus donne l'explication, il relève quelque chose, c'est que tous ces terrains, parce que finalement c'est l'image de personnes ou de cœurs de personnes, ils ont tous entendu la parole. Regardez, verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, quand ils l'ont entendu. Verset 16. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole. Verset 18, d'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Et verset 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Vous voyez, les quatre ont entendu la parole. Donc, quelque part, ça montre une chose qui est très intéressante, c'est que je crois d'une certaine façon, et je vais prendre cette image, que nous entendons tous la parole. Chaque dimanche, on entend la même parole, on reçoit la même semence, les uns et les autres, chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans l'utilisation. Qu'est-ce que je fais de la semence, puisqu'elle est la même pour tous? Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, c'est un problème d'utilisation. Alors, regardez, maintenant, on va prendre ces quatre terrains, et vous allez voir qu'on est concerné. Premier de ces terrains, c'est ce terrain où les oiseaux sont venus et ont mangé. Vous voyez. Et Jésus explique un petit peu cela en disant verset 15, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient. Et je me suis posé la question, j'ai réfléchi un petit peu à ça, en me disant mais qu'est-ce qu'il fait là, Satan? Qu'est-ce qu'il fait là, Satan? Et je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Qu'est-ce que faisait un animal des champs dans le jardin? Il y avait eu certainement un problème de vigilance. Et là, ici, la parole est semée, et il nous est dit que Satan vient. Vous voyez? Il vient. Et je voudrais faire un parallèle avec un texte, un petit verset que nous connaissons, c'est une parole de l'apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens, où il est dit « Ne donnez pas accès au diable. » Alors, il faut que ce soit clair, ici il n'est absolument pas question de possession. Parce qu'on est bien d'accord qu'un chrétien qui est authentiquement né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas être en même temps tenu par un mauvais esprit. On est tous d'accord là-dessus et il faut que ce soit clair. Mais quelque part, je crois que parfois, par certaines attitudes, certains comportements, on peut ouvrir des portes qui donnent un accès au diable. Et quand vous lisez ce chapitre 4 des Éphésiens, vous avez tout un tas d'éléments qui nous sont donnés et qui nous montrent, j'allais dire, alors comprenez dans le sens dans lequel je le dis, mais le mode d'emploi pour donner accès au diable. C'est dans ce fameux passage d'Éphésiens 4, vous le lirez, où il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit » et où il est dit, d'ailleurs c'est la suite, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, enfin toute cette famille-là disparaisse du milieu de vous. Pourquoi? Parce que ces choses-là, elles donnent un accès au diable dans nos vies. Et quand le diable a un accès dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il enlève la parole. Vous voyez? C'est pour ça que déjà ce premier terrain nous concerne. Ça montre une chose, c'est que si on n'est pas vigilant, si on ne veille pas par certaines façons d'être, par certaines attitudes, par certains sentiments qu'on peut garder dans notre cœur, on peut donner un accès au diable, ce qui fait que quand la semence est jetée dans nos vies, le diable vient et l'enlève. Parce qu'on a laissé une porte ouverte quelque part. Et je crois que c'est intéressant d'y réfléchir et de dire, mais Seigneur, moi je ne veux pas que dans ma vie, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, je sois toujours le même parce que quelque part, chaque fois, Satan vient et enlève la parole. Parce que cette parole, elle est là pour m'amener à porter du fruit. Mais si le diable vient et enlève la parole parce que je lui donne un accès, quelle que soit la façon ou quelle que soit la manière, ben, il n'y a pas de fruit. Et je viens, toutes les semaines, j'entends la semence, j'entends le semeur parler du semeur, j'entends cette semence, elle vient dans mon cœur, mais parce que j'ai laissé quelques accès par-ci, par-là, j'ai laissé quelques portes ouvertes par-ci, par-là, le diable vient, il enlève la semence. Deuxième terrain, celui qui est pierreux. Alors là aussi, j'ai un petit peu réfléchi. Bon, bien sûr, on se souvient que devant le tombeau de Lazare, Jésus a dit « ôtez la pierre ». J'en ai tellement entendu de prédications sur ce texte. Et c'est vrai qu'il y a des pierres qu'il faut ôter de nos vies. On est tous d'accord là-dessus. Mais j'ai pensé plutôt à ce verset des Proverbes, où il est dit ceci, Proverbe 24, verset 27. « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Je trouve ce verset très intéressant. Parce que ça montre que quelque part, avant de bâtir, il faut mettre le champ en état, il faut enlever les pierres, quoi. Il faut viabiliser, bon, alors moi je ne suis pas un connaisseur dans tout ça, mais il faut viabiliser, il faut faire ce qu'il y a à faire, parce que sinon, si vous bâtissez direct comme ça, la maison, au niveau des fondations, au niveau de la profondeur, ça ne va pas être top. Et à un moment donné, il va y avoir un souci, voyez. Et je crois que dans nos vies, c'est pareil. L'enseignement, c'est quelque part, avant de bâtir, il faut mettre le champ, et ce champ, c'est un peu l'image de notre cœur, il faut le mettre en état, il faut que les pierres soient enlevées. Il faut que les pierres soient enlevées, parce que sinon, irrémédiablement, la semence est jetée dans nos cœurs, la semence est jetée dans nos vies, mais quelque part, ça ne porte pas le fruit que ça devrait porter, parce qu'il y a manque de profondeur à cause de ces pierres, voyez. Alors de quoi je parle? De quoi je parle? Ben, je pourrais parler de l'orgueil, je pourrais parler... le frère Donati en a parlé il y a 15 jours du caractère, mauvais caractère, hein, tout ça c'est des grosses pierres, vous voyez, tendance à juger les autres, il y a tellement de choses qui sont là comme des grosses pierres et qui ont besoin d'être enlevées avec l'aide du Seigneur, parce que sinon tous les dimanches on reçoit la semence, mais il y a ces pierres qui sont là, qui demeurent, qu'on a laissées là, avec lesquelles on cohabite peut-être, on habite avec depuis peut-être des années et on a bâti notre vie chrétienne avec ça. On a bâti notre vie chrétienne avec ça. C'est quand même dingue, vous voyez. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de bâtir une maison en laissant des rochers partout. On dirait non, mais il faut d'abord faire ce qu'il faut. Mais c'est parfois ce qu'on peut faire dans nos vies. Hein. On cohabite avec des pierres, avec des choses qui sont là. On le sait, parfois même on le sait. Ouais, je le sais, comme une fois on me dit, ouais, je le sais, j'ai mauvais caractère. Mais c'est comme ça. Et puis même plusieurs fois on m'a dit, et puis c'est pas vous qui me changerez. Moi, je change personne, moi. Hein. C'est le Seigneur qui change les gens, hein. C'est pas moi. Hein. Mais vous voyez. La semence qui est jetée dans les endroits pierreux, ça ne concerne pas que les incroyants. Hein. Ça nous concerne à nous aussi. Et puis, notez bien, parce que j'ai réfléchi à ça, il est dit, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Et ça m'a fait réfléchir ça. Parce que, parfois, et comprenez la manière dont je vais le dire, la parole, entre guillemets, elle nous persécute. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans le sens que parfois, elle vient mettre le doigt là où ça fait mal. Elle vient nous titiller. Et en ce sens, elle nous persécute. Parce que je ne sais pas vous, mais quand le Seigneur vient mettre le doigt, oh, quand je suis chez les autres, il n'y a pas de problème. Hein. Alléluia, Seigneur, ouais, il en a besoin. Oui, vas-y, ouais, c'est vrai, tu as vu, ce n'est pas une pierre que tu as, c'est un rocher. Bon, mais quand c'est chez nous... Quand c'est chez nous, vous voyez, et c'est vrai que la semence, la parole, elle est là pour, entre guillemets, je prends cette image, nous persécuter, nous titiller, elle est là pour mettre le doigt, et chaque fois qu'elle le fait, ben c'est vrai que notre chair, vous voyez, mais le but c'est quoi? Le but c'est que, eh bien justement, en réalisant ça, on puisse dire, Seigneur, mais je veux me laisser épurer, je veux me laisser nettoyer, je veux que ces pierres elles s'enlèvent. Et si par ta parole tu viens entre guillemets me persécuter, hein, entre guillemets, bien sûr, c'est une image, mais si ta parole vient un petit peu là me, hein, des fois on m'a dit, ah, vous avez pas un peu autre chose à prêcher, des fois ça m'agace un peu, ça m'irrite un peu. Ben, alléluia. Alléluia. Si la parole nous agace et nous irrite, ben merci Seigneur. Hein? Des fois on dit, oh, purée, il insiste. Hein? Il insiste. Hein? Ben ouais. Mais j'allais dire, c'est le semeur qui est là et qui, et qui revient, et cette parole, elle est là, et des fois, elle nous pique un peu, et on se sent repris, et bien, gloire à Dieu, ça prouve que c'est bon, ça prouve que le Seigneur veut nous amener plus loin. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que cette parole, elle porte du fruit. Et peut-être, mon frère, ma sœur, nous rappeler ce soir que si Dieu met le doigt, peut-être en ce moment, dans un domaine ou un autre de notre vie, si quelque part ça grince un peu, si quelque part, on sent que le Seigneur est là en train de un petit peu de nous persécuter, mais pour la bonne cause, vous voyez, par sa parole, mais c'est pour que justement, cette parole, elle nous fasse porter du fruit. C'est important. Parce que sinon, on restera sur quelque chose de superficiel. Il n'y a pas de profondeur. Et la vie chrétienne, c'est une vie de profondeur. S'il n'y a pas de profondeur, si c'est juste en surface, ça ira pas loin. Il suffira de quelque chose et à un moment donné, on perdra pied. Vous voyez. Que Dieu nous aide. Et puis regardez, troisième terrain, les épines. Jésus donne l'explication. Jésus dit que ces épines, ce sont les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Et ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Dites-moi, je crois franchement qu'il faudrait être sacrément malhonnête pour penser que ça concerne que les incroyants. Franchement, on est tous concernés par ça. Bien sûr qu'on peut prendre cette parabole et la tourner pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui découvrent les choses de Dieu, bien sûr. Mais quand je lisais ça, je me disais, les soucis du siècle, mais on est autant concernés. Hein. Vous voyez, les soucis du siècle, la séduction des richesses. Hein. Quand je vois ce qui est arrivé à Achan, quand il a vu là dans le butin de Jéricho un beau manteau de chinéar et de l'argent, pourtant il avait entendu comme les autres. Hein. Mais là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourtant, il savait, pourtant, il avait entendu. Et tous ces bien-aimés, moi, je les appelle ces bien-aimés, je veux accuser personne, accabler personne, mais qui, à un moment donné, sont sortis du chemin parce qu'ils ont commencé la séduction des richesses, quel que soit ce dont il est question, on s'est laissé attirer. Mais pourtant, il le savait. Ce n'est pas faute de ne pas le savoir. Mais voilà, à un moment donné, un peu, vous voyez, c'est aveuglé. Vous voyez, je pense à Géasi. Quand je pense à Géasi, ce qu'il a été capable de faire, alors qu'il vivait au contact de Élisée, qui veut dire Dieu de mon salut, un homme qui a vu des miracles, mais comment il a pu faire ce qu'il a fait? Et puis après revenir devant son maître, d'où viens-tu? Ah ben non, rien de temps, tout va bien. Vous voyez? Ça nous concerne tout ça. Ça nous concerne. Séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Tant que nous serons ici-bas, ces choses-là nous concerneront. Et on sera en but à ces choses-là. Vous voyez? Et nous ferons la guerre, vous voyez. Et vous avez remarqué, je l'ai souligné même en rouge, les épines et les ronces, vous n'avez pas besoin de les entretenir. Hein. C'est dingue ça. Hein. La dernière fois, on a nettoyé le terrain, je suis repassé 15 jours après, je dis, c'est pas possible. J'ai passé une heure de nouveau à enlever de partout, et il y en a toujours 15 jours après, ça, c'est dingue ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin, ça revient. Ce n'est pas parce que j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion que les épines et les ronces, ça ne reviendra pas. Hein. Si je n'entretiens pas ma vie, si je ne fais pas attention. Et des fois, j'ai même été, ce genre de choses moi, qui m'impressionnent. Je dis, regarde-moi ça. Des fois, vous avez une dalle de béton, ou des fois, vous avez des carreaux de béton, et puis il y a un tout petit endroit entre deux morceaux de béton, pouf, vous avez un pissenlit là, ou un truc au milieu. Qu'est-ce que ça fait là, le chien dedans, là, ça sort. Je dis, mais comment ça a réussi à sortir là, quoi? Mais dans nos vies, c'est pareil. Il suffit d'une petite faille, parce que c'est ça, finalement, le pissenlit qui sort là, la ronce qui sort à cet endroit-là, des fois, vous dites, mais c'est pas possible. Comment, avec le peu qu'il y a là d'espace, que ça sort, ben, ça montre qu'il suffit d'une faille, une petite faille, et tchouk, vous avez une ronce, une épine qui sort. Vous voyez? Et quelque part, ça nous montre que c'est tous les jours qu'on a besoin de nettoyer notre cœur. Et qu'on a besoin d'apporter notre cœur au Seigneur pour dire, Seigneur, je ne veux pas laisser les ronces et les épines prendre place dans ma vie. Hein. Dans le livre des Proverbes, ça me vient à l'esprit, hein, vous avez ce passage où il est dit, j'ai passé près du champ du paresseux, et puis le mur était par terre, vous voyez, et puis les ronces et les épines croissaient partout. Mais... les ronces et les épines qui croissent partout, ça c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un manque d'entretien. Mais si tous les jours on vit, on enlève. Des fois, c'est pas grand-chose, mais tchouk, tchouk, tchouk. Mais dans nos cœurs, c'est pareil. Hein. Dans nos cœurs. Et c'est pour ça que c'est tous les jours qu'on a, On a besoin de venir devant le Seigneur et nettoyer notre cœur. Parce que les ronces et les épines, ça nous concerne aussi à nous. Et s'il n'y a pas d'entretien, eh bien, quelque part, à un moment donné, ce que dit Jésus ici dans cette parabole, eh bien, ça sera nous. Et la parole sera étouffée et ça sera infructueux. Pourtant, ce n'est pas faute d'entendre. C'est la même semence, mais voilà, étouffée par toutes ces ronces et par toutes ces épines. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, tu as payé le prix à la croix pour nettoyer ma vie. Alors, Seigneur, avec ton aide et ton secours, tous les jours, je veux venir devant toi pour que tu m'aides. Et puis, il y a le quatrième terrain, la bonne terre. Alors, vous imaginez, souvent on pense, quand on appelle ça, quand on apporte cette parabole dans les réunions dites d'évangélisation, la bonne terre, c'est celui qui croit. C'est le croyant, vous voyez. On a reçu la parole, ça y est, on est la bonne terre. Vous croyez, franchement. Je ne sais pas, hein. J'ai un doute, et j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, non mais, c'est pas parce qu'on a donné notre cœur au Seigneur que tout d'un coup on est devenu la bonne terre, hein. La terre, elle a besoin de te travailler un peu, hein, parce que, vous voyez, hein, voyez, comme quoi, des fois, c'est pour ça. Est-ce que tu crois que c'est que pour les incroyants? Non, c'est pas que pour les incroyants. Voyez. Alors, j'ai fait un comparatif, j'ai regardé. Dans l'évangile de Luc, vous avez la même histoire, la parabole du semeur, mais il y a un détail supplémentaire, regardez. Luc nous dit ceci, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Et j'étais attiré par cette parole, avec un cœur honnête et bon. Et je crois que c'est très intéressant parce que si on veut avoir un cœur qui soit comme de la bonne terre, il y a une condition qui est indispensable, c'est d'avoir un cœur honnête. Sans honnêteté spirituelle, on ne peut pas être de la bonne terre. Ce n'est pas possible. L'honnêteté. Et s'il y a l'honnêteté, alors ça sera bon aussi. Parce que c'est d'abord honnête et après bon. Parce que ça découle de l'honnêteté, vous voyez. Ça découle de l'honnêteté. C'est la conséquence de l'honnêteté. Alors un cœur honnête, c'est quoi? J'ai réfléchi à ça. Un cœur honnête, c'est quoi? J'ai mis, c'est un cœur qui sait où il en est. Un cœur qui est suffisamment honnête, lucide, pour savoir ce qui a encore besoin d'être changé, ce qui a besoin encore d'être renouvelé, pour pouvoir lucidement dire, eh bien, là encore, dans ce domaine-là, ça ne va pas. C'est ça un cœur honnête. Dans ce domaine-là, il y a encore une faille, il y a encore quelques fragilités. Dans ce domaine-là aussi, là, ben, je sais que, vous voyez, c'est un peu juste, quoi, voyez, c'est ça un cœur honnête. Penser que tout va bien, qu'un jour j'ai donné mon cœur au Seigneur et puis que ça y est, c'est réglé, tout est réglé. Non, avoir un cœur honnête, c'est important. Un cœur qui est lucide. Peut-être je pose la question, est-ce qu'on est lucide vis-à-vis de nous-mêmes? Alors, vous avez les deux extrêmes, hein, et il faut être ni dans l'une ni dans l'autre. C'est-à-dire, vous avez ceux qui ne sont pas du tout lucides. Ils se voient très très spirituels. Le pharisien. Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ni même comme celui-là. Hein, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, vous rappelez la parabole. Il n'est pas lucide, quoi. Il est fou. Vous voyez? Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Ceux qui sont toujours en train de se flageller, quoi. Et qui se flagellent tellement, qui sont toujours en train de se tirer dessus. Je vais vous dire. Ce genre de croyant-là, le diable, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont en train de se démolir tout seuls. Ils sont en train de tellement de se dire « Ah, mais je suis nul, aime ceci, aime cela, et puis de toute façon, je n'y arrive pas, et puis ceci, et puis ce n'est pas pour moi. » Mais, je veux dire, l'ennemi dit « Bon, ben ça va, ça fait déjà un de moins à m'occuper, tu le fais tout seul. Tu le fais très bien tout seul, vas-y. Démolis-toi tout seul, c'est très bien. » Non, ce n'est pas ça un cœur lucide. Un cœur honnête, c'est avoir de la lucidité. Oui, il y a des domaines, même si on veille dessus, parce qu'il faut être vigilant, on sait que peut-être dans tel domaine, on a moins de problèmes. Par contre, on sait que dans tel domaine, par contre là, hein, et puis vous prenez quelqu'un d'autre, ça sera le contraire. Hein. Ça sera le contraire. Il y a des gens, ils n'ont aucun problème avec l'argent. Hein. Ça ne leur pose aucun problème. Il y en a d'autres, hein, l'argent, ils ont les mêmes percées, quoi. Ça ne veut pas gérer. Vous en avez d'autres, c'est tout ce qui touche de près ou de loin au sexe opposé. Vous en avez d'autres, c'est encore autre chose. Un cœur honnête, c'est un cœur qui est lucide sur qui il est et ses fragilités, ses, Voilà, dire, ben, Seigneur, je sais que dans tel endroit, là, dans tel domaine, ben, j'ai besoin de ta grâce, quoi. Vous avez un homme qui avait ce cœur honnête. Et je crois que c'est ce qui l'a sauvé. C'est David. C'est David. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, quand même, David, chaque fois que j'y réfléchis, je me dis, mais me rendez compte ce qu'il a fait. Mais humainement, avec mon regard à moi, peut-être je me trompe, mais pour moi, il a fait pire que Saül. Hein. Parce que pour commettre adultère, pour faire tuer le mari derrière, pour faire comment il a fait en plus, la manière dont il s'est pris, ça a été tordu, ça a été... Vous vous rendez compte? Et puis il a été ingénieux quand même, le gars. Il était ingénieux, le gars. Hein. Quand il remet la lettre à Joab, où il était écrit... Quand il remet d'abord la lettre pour donner à Joab, à Uri, pour que celui-ci aille lui remettre la lettre à Joab, et dedans il y avait écrit « Tu vas le placer au plus fort du combat pour que... » Fallait quand même être sacrément gonflé quand même. Hein. C'était tordu, quoi. C'était tordu comme plan, vous voyez. On se dit, mais quoi, David? Ben oui, mais David, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il avait un cœur honnête. Il avait un cœur honnête. Contrairement à Saül. Parce que Saül, quand même, quand il est pris la main dans le sac, ah, c'est pas moi, c'est le peuple. Enfin, c'est moi, mais en fait, c'est le peuple aussi, quoi. Vous lirez 1 Samuel chapitre 15, relisez ça, vous allez voir, c'est fou, quoi. Hein, oui, c'était lui, mais c'était pas lui. C'était lui, mais c'était le peuple, vous voyez? David, lui, quand Nathan vient le voir, en lui disant « tuer cet homme-là », il va dire « ben oui, j'ai péché ». Et je l'ai déjà dit, je vais le redire ce soir, j'ai toujours été impressionné par le psaume 51 où jamais il ne parle de Bathsheba. Jamais. Pourtant, elle était aussi coupable. Hein il a certainement abusé de son autorité, etc. Mais allez, je ne vais pas dire qu'elle était aussi coupable. Elle avait sa part de responsabilité, je vais plutôt le dire comme ça. Elle avait sa part de responsabilité dans l'affaire aussi. Voyez. Mais il n'en parle pas. Regardez le psaume 51, il dit toujours « je ». Je suis né dans l'iniquité, je reconnais mes transgressions. Relisez le psaume 51, jamais il parle d'elle. Voyez. Ça montre un cœur honnête. Voyez. Il ne commence pas à essayer. Vous avez des gens, pour surnager, ils enfoncent les autres. Pour se relever, ils s'appuient sur les autres. Donc comme ça, au moins comme ça, vous voyez. David, il aurait pu faire ça, il aurait pu mettre la tête sous l'eau à Bathsheba. Ouais, ceci, cela, elle a fait ça, elle avait qu'à pas, tatati, talala. Il ne fait pas ça, David. Il a un cœur honnête. Et c'est ça qui l'a sauvé. On peut faire des erreurs. On peut chuter. Je ne suis pas en train de dire allez-y. Hein. Mais je crois que si on a un cœur honnête, on saura toujours revenir, on saura toujours dire oui, c'est vrai. C'est vrai. David, il dit toujours « je », mais pas dans le sens orgueilleux du terme, mais parce que son cœur était honnête. C'est pour ça que parfois, là, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, je ne parle pas de ce soir, hein, et je ne suis pas en train d'analyser les prières. Mais des fois, je suis un peu gêné par certaines prières avec l'usage abusif du « nous ». « Nous, 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 nous ». Ben, moi, des fois, je ne me sens pas concerné. Je dis « non, c'est bon, moi, j'ai les miennes, hein ». Mais des fois, c'est « je », c'est pas « nous ». Et des fois, on peut se cacher derrière le « nous ».« Nous, ceci, nous, cela, nous, nous ». Ouais, ouais, d'accord, ouais, ouais. Mais des fois, non. Des fois, non. Vous voyez, rappelez-vous, je prends un exemple. Quand Nicodème, il arrive devant Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui ». Vous voyez, « nous savons ». Il parle de lui et des autres religieux, voyez. Nous savons. Et que fait Jésus? Jésus va lui dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il ne dit pas, il faut que vous naissiez de nouveau. Non, non, les autres, tu vas les laisser tranquilles. Mais là, c'est toi et moi. Donc, il faut que tu naisses de nouveau, voyez. Parce qu'on peut se cacher derrière le « nous hein ». C'est ce que faisait un peu Nicodème, quelque part. Mais Jésus lui dit, attends, les autres, ils sont... Hein? Parce que le jour où on sera devant Dieu, on aura à répondre pour nous-mêmes. On n'aura pas à répondre pour les autres, voyez. Et quelque part, c'est ça, un cœur honnête. David, il en a fait, mais il avait un cœur honnête. Et la bonne terre, c'est ça. Pour que cette semence qu'on entend, qu'on lit tous les jours, qu'on entend prêcher, qu'importe le prédicateur, mais pour qu'elle porte son fruit, il faut qu'elle tombe dans un cœur honnête. Je n'ai pas dit parfait, parce qu'alors là, sinon, il n'y aurait personne. Mais la bonne terre, c'est pas forcément l'image de quelqu'un qui est parfait, qui a tout saisi, qui a tout compris, qui est hautement spirituel. Non, c'est quelqu'un qui a un cœur honnête. Et donc, qui est bon. et qu'il faudra que la parole pourra faire son effet et produire du fruit. Et moi, j'ai envie de dire, ben, Seigneur, je vais avoir ce cœur honnête et bon. Il y a peut-être encore des lacunes, il y en a même certainement, et il y en a. Et je pense que quand même, on se connaît tous. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous serez capable d'écrire sur une feuille, prenez, je ne dis pas là devant tout le monde, hein, mais rentrer un jour là d'écrire, ben, là c'est un souci, là c'est un souci, là c'est un souci. Voilà, j'ai combat là et là et là. C'est ça avoir un cœur honnête. Hein. C'est ça avoir un cœur honnête. Et qui va permettre à cette semence de porter du fruit, ce pourquoi elle est semée dans nos cœurs. Et moi j'ai envie de dire, Seigneur, ben, je veux avoir ce cœur honnête et reconnaître s'il y a des choses encore à changer. Ben oui, Seigneur, c'est vrai. Je ne vais pas me cacher derrière les autres. Je ne vais pas commencer à accuser les autres. Je ne vais pas commencer à faire ressortir les erreurs des autres pour cacher les miennes. Ben Seigneur, je veux être honnête. Oui, c'est vrai. Dans tel domaine encore, il y a du boulot. Hein. Il y a des progrès, mais bon, ce n'est pas top, quoi. Mais peut-être, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides pour que ben, il y a des progrès qui soient faits. Alors je termine, vous voyez, comme quoi quand on y réfléchit, cette parabole du semeur, elle n'est pas que pour les incroyants, elle est pour nous. Et elle est là pour nous amener à dire, Seigneur, je veux que dans mon cœur, cette semence que je reçois, que nous recevons, elle puisse descendre au plus profond et faire son œuvre. Elle puisse faire son œuvre. Parce que c'est important. C'est important quand on y réfléchit, Seigneur, je veux pas laisser les ronces, je ne veux pas laisser les pierres, pas laisser une porte ouverte par-ci par-là qui fera que le diable vient, mais je veux porter du fruit. Alors Seigneur, aide-nous, aide-moi à avoir ce cœur honnête et bon. Honnête et bon, pas parfait, mais pensez à David, il avait ce cœur honnête, ouais. Chaque fois il savait revenir. Saül, ben, à chaque fois, non, voyez, c'était la faute de David, c'était la faute du peuple, voilà, un coup il s'en prenait à Jonathan son propre fils, un coup, il s'en prenait toujours à l'un ou à l'autre, c'était jamais lui. C'était jamais lui. Mais regardez où ça l'a mené. Seigneur, je veux avoir un cœur honnête et bon. Et je reconnais que peut-être dans ma vie, dans telle situation, il y a des choses qui ont besoin d'être rectifiées. Mais si quelque part, quand on est là et le Seigneur le met devant nos yeux et nous titille avec ça, mais c'est bon. Gloire à Dieu, ça. C'est bon. C'est ça, quand Jésus dit le sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde. Vous voyez? Et des fois, quand ça coupe, quand le Seigneur vient couper, ah! Vous voyez, quand. Ben oui. Et parfois, pour être vainqueur de certaines choses, il faut que le Seigneur nous y confronte. Il faut que le Seigneur nous y met le nez dedans. Mais il ne nous y met pas le nez dedans pour nous humilier, mais pour nous rendre vainqueurs. Alors, Seigneur, aide-moi. Que ta parole puisse descendre au fond de mon cœur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein. Que cette semence, elle puisse porter son fruit. Alléluia. Et en tout cas, que notre vie, elle soit à son image. Voyez, elle soit à son image. Je termine. Je parlais avec mon beau-père quand il était là cette semaine. Et il me disait une chose. J'ai réfléchi. J'ai dit, oui, c'est vrai. Concernant un des versets qu'il a abordé quand il a dit que sans la sanctification, personne ne verrait le Seigneur. J'avais jamais réfléchi à ça. Il m'a dit ceci. Bien sûr, bon, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais est-ce que c'est simplement dans ce sens-là premier? Personne ne verra le Seigneur. Et il me faisait remarquer, mais sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur en nous. Personne ne verra le Seigneur en nous. Et je me suis dit, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Vous voyez, sans la sanctification, c'est parce que souvent, personne ne verra le Seigneur. Pour nous, dans notre esprit, c'est « il n'est pas sauvé ». C'est pas forcément ça. Ouais, c'est personne ne verra aussi le Seigneur en nous, au travers de nous, parce que, voyez. Et waouh, ben Seigneur, aide-moi à avoir un cœur honnête et bon, afin que les autres te voient en nous, au travers de nous, Seigneur. Des fois, on n'est pas des lumières, des fois, on ne sait pas trop parler, on ne sait pas trop comment faire, mais si les autres voient le Seigneur en nous, à cause de cette semence qu'il a plantée dans nos cœurs, alors, eh bien, ça portera du fruit. Hein. Que Dieu nous aide. Hein. Seigneur, merci encore.